Aureliano fut le seul à se faire du souci pour eux. Il leur acheta quelques meubles et leur procura de l'argent, jusqu'à ce que José Arcadio retrouvât le sens des réalités et se mit à travailler la terre dans le lopin contigu au patio de la maison et qui n'était à personne. Amaranta, en revanche, ne parvint jamais à surmonter sa rancœur contre Rebecca, bien que le sort lui réservât une satisfaction dont elle n'avait même pas rêvé. Sur la proposition d'Ursula, qui ne savait comment réparer cette honte, Pietro Crespi continua à déjeuner tous les mardis à la maison, surmontant son échec avec calme et dignité. Comme preuve de son estime à l'égard de la famille, il conserva le crêpe à son chapeau. Et il avait plaisir à marquer son affection pour Ursula, en lui apportant des cadeaux exotiques. Sardines portugaises, confitures de roses de Turquie, et un jour un ravissant châle de Manille. Amaranta l'accueillait avec un tendre empressement. Elle devinait ce qu'il aimait, arrachait les fils décousus à ses poignets de chemise, broda une douzaine de mouchoirs à ses initiales pour son anniversaire. Chaque mardi, après déjeuner, tandis qu'elle brodait sous la véranda, il lui tenait joyeusement compagnie. Pietro Crespi eut bientôt la révélation de cette femme qu'il avait toujours considérée et traitée comme une gamine. Son type de beauté manquait d'une certaine grâce, mais elle était d'une sensibilité rare, capable d'apprécier les choses de la vie, pleine d'une secrète tendresse. Un mardi, quand personne ne doutait plus de ce qui devait arriver tôt ou tard, Pietro Crespi la demanda en mariage. Elle n'interrompit pas son ouvrage. Elle attendit que se dissipât la chaude rougeur qui lui était montée aux oreilles et prit une voix posée, solennelle, de personne d'expérience. « Bien entendu, Crespi, lui dit-elle, mais attendons de nous connaître mieux. Il n'est jamais bon de vouloir précipiter les choses. » Ursula s'offusqua. Bien qu'elle tînt Pietro Crespi en haute estime, elle n'arrivait pas à établir si sa résolution était bonne ou mauvaise du point de vue moral après ses longues et tumultueuses fiançailles avec Rebecca. Mais elle finit par l'accepter comme quelque chose de ni bien ni mal, puisque personne ne partageait ses doutes. Aureliano, qui était l'homme de la maison, la confondit bien davantage encore en émettant une opinion aussi formelle qu'énigmatique. « Ce n'est pas le moment de se mettre à penser mariage. » Cette opinion, dont Ursula ne comprit le sens que quelques mois plus tard, était la seule qu'Aureliano pouvait alors exprimer en restant sincère avec lui-même. Non seulement pour ce qui était du mariage, mais pour toute autre préoccupation qui n'était pas la guerre. Lui-même, face au peloton d'exécution, ne devait jamais comprendre très clairement comment s'était enchaînée cette suite de hasards ténus, mais déterminants, qui l'avait conduit jusque-là. La mort de Remedios ne produisit pas en lui cette commotion qu'il appréhendait. Ce fut plutôt une sourde colère qui se dissipa peu à peu, ne lui laissant qu'un sentiment de frustration solitaire et passive, semblable à celui qu'il éprouvait à l'époque où il s'était résigné à se passer de femme. Il se plongea à nouveau dans le travail, mais garda l'habitude d'aller jouer au domino avec son beau-père. Dans une maison bâillonnée par le deuil, les conversations nocturnes consolidèrent l'amitié entre les deux hommes. « Remarie-toi, Aurelito, disait le beau-père. « J'ai 6 filles, tu as le choix. » Un jour, à la veille des élections, Don Apollinar Moscote, au retour d'un de ses fréquents voyages, se montra préoccupé par la situation politique du pays. Les libéraux étaient décidés à se lancer dans la guerre. Comme Aureliano, à cette époque, avait des notions très confuses des différences entre conservateurs et libéraux, son beau-père les lui simplifia en quelques leçons. Les libéraux, lui expliqua-t-il, étaient francs-maçons, gens aux mauvais instincts, partisans de pendre les curés, d'instaurer le mariage civil et le divorce, de reconnaître les mêmes droits aux enfants naturels et aux légitimes, de faire éclater le pays par un système fédéral qui dépouillerait le pouvoir central de ses prérogatives. Au contraire, les conservateurs, qui tenaient le pouvoir directement de Dieu lui-même, veillaient sur la stabilité de l'ordre public et la morale familiale. C'étaient les défenseurs de la foi du Christ, du principe d'autorité, et ils n'étaient pas disposés à permettre que le pays fût écartelé en collectivités autonomes. Ces sentiments humanitaires poussait Aureliano à sympathiser avec l'attitude libérale en ce qui concernait les droits des enfants naturels. Mais, de toute manière, il ne comprenait pas comment on en arrivait à faire la guerre pour des choses qu'on ne pouvait toucher du doigt. Il jugea excessif que son beau-père se fît envoyer, pour la période des élections, 6 hommes armés de fusils sous les ordres d'un sergent, dans un village dépourvu de toute passion politique. Non seulement les soldats débarquèrent, mais ils s'enfurent de maison en maison confisquer les armes de chasse, les machettes et jusqu'aux couteaux de cuisine, avant de distribuer aux hommes de plus de 21 ans des bulletins bleus portant les noms des candidats conservateurs et des bulletins rouges portant les noms des candidats libéraux. La veille des élections, Don Apollinar Moscote en personne lut un avis interdisant dès le samedi minuit et pour 48 heures la vente de boissons alcoolisées et les rassemblements de plus de 3 personnes n'appartenant pas à la même famille. Les élections se passèrent sans incident. Dès 8 heures du matin, le dimanche, on installa sur la place l'urne en bois gardée par les 6 soldats. On vota en toute liberté, comme put lui-même le constater Aureliano, qui resta presque toute la journée auprès de son beau-père, veillant à ce que personne ne votât plus d'une fois. À 4 heures de l'après-midi, un roulement de tambour annonça sur la place la clôture du scrutin, et Don Apollinar Moscote scella l'urne avec une bande de papier gommé en travers de laquelle il apposa sa signature. Le soir même, pendant sa partie de domino avec Aureliano, il donna l'ordre au sergent de rompre la bande de papier gommé afin de faire le décompte des suffrages. Il y avait à peu près autant de bulletins rouges que de bleus. Mais le sergent n'en laissa que 10 et compléta la différence avec des bleus. Puis l'urne fut scellée à nouveau avec une bande neuve et le lendemain, à la première heure, fut acheminée sur la capitale de la province. « Les libéraux partiront en guerre », dit Aureliano. Don Apollinar Moscote ne relâcha pas son attention au jeu de domino. « Si tu dis ça à cause des échanges de bulletins, non, ils ne partiront pas en guerre », répondit-il. « On laisse exprès quelques bulletins rouges pour qu'il n'y ait pas de réclamation. » Aureliano comprit les inconvénients de l'opposition. « Si j'étais libéral, dit-il, je partirais en guerre pour cette histoire de bulletins. » Son beau-père le regarda par-dessus la monture de ses lunettes. « Si tu étais libéral, mon pauvre Aurelito, et quand bien même serais-tu mon gendre, tu n'aurais pas assisté à l'échange des bulletins. » Ce qui provoqua réellement l'indignation du village, ce ne fut pas le résultat des élections, mais le fait que les soldats n'eussent pas rendu les armes. Une délégation de femmes s'en vint parler avec Aureliano afin qu'il obtînt de son beau-père la restitution des couteaux de cuisine. Don Apollinar Moscote lui expliqua en grand secret que les soldats avaient emporté les armes confisquées comme autant de preuves que les libéraux se préparaient à la guerre. Le cynisme de cette déclaration l'inquiéta. Il ne fit aucun commentaire, mais une nuit que Guerinaldo Marquez et Magnifico Bisbal bavardaient entre amis au sujet de l'incident des couteaux, on lui demanda s'il était libéral ou conservateur, et Aureliano n'hésita pas. « S'il faut appartenir à quelque chose, je serai libéral, » répondit-il, « car les conservateurs sont des tricheurs. » Le lendemain, à la demande de ses amis, il rendit visite au docteur Alirio Noguera pour se faire soigner une prétendue douleur au foie. Lui-même ignorait totalement le sens de cette comédie. Le docteur Alirio Noguera avait débarqué à Macondo quelques années auparavant avec une boîte à pharmacie remplie de petites pastilles insipides et une devise médicale qui ne convainquit personne, un clou sort l'autre. C'était en réalité un imposteur. Derrière son innocente façade de médecin sans réputation, se cachait un terroriste qui dissimulait sous des chaussures à talons plats qui lui montaient jusqu'à mi-jambe les cicatrices que lui avaient laissées aux chevilles 5 ans passés au fer. Capturé lors de la première équipée fédéraliste, il réussit à s'échapper à Curaçao, déguisé avec le costume qu'il détestait le plus au monde, une soutane. Au terme d'un exil prolongé, enthousiasmé par les nouvelles, rendues meilleures qu'elles n'étaient, que rapportaient à Curaçao les proscrits de toutes les Caraïbes, il monta à bord d'une goélette de contrebandier et réapparut à Riohacha avec ses petits flacons de comprimés qui n'étaient rien d'autre que du sucre raffiné, et avec un diplôme de l'université de Leipzig qu'il avait falsifié lui-même. Il fut si déçu qu'il en pleura. La ferveur fédéraliste, que les exilés comparaient à un baril de poudre sur le point d'exploser, s'était dissoute en vagues illusions électorales. Aigri par l'échec, désireux de trouver quelque endroit où attendre ses vieux jours en sécurité, le faux homéopathe se réfugia à Macondo. Dans la chambrette exiguë tout encombrée de flacons vides qu'il loua en bordure de la place, il vécut plusieurs années sur le dos de malades désespérés qui, après avoir tout essayé, se consolaient avec du sucre en pastille. Ses instincts d'agitateur demeurèrent en repos tant que Don Apollinar Moscote se contenta d'être une autorité d'apparat. Il tuait le temps avec ses souvenirs et à lutter contre l'asthme. L'approche des élections fut le fil qu'il n'eut qu'à suivre pour retrouver les chevaux de la subversion. Il prit contact avec les jeunes du village qui manquaient de formation politique et engagea une secrète campagne de propagande et de recrutement. Les nombreux bulletins rouges qui apparurent dans l'urne et dont la présence fut attribuée par Don Apollinar Moscoté à un amour des nouveautés bien propres à la jeunesse, constituaient en fait un aspect de son plan. Il obligea ceux qui le suivaient à voter pour les convaincre que les élections n'étaient qu'une farce. « Le seul recours efficace, disait-il, c'est la violence !» La plupart des amis d'Aureliano étaient enthousiasmés par l'idée de liquider l'ordre conservateur, mais nul n'avait osé l'inviter à se rallier à leur plan. Non seulement parce qu'il était lié au corregidor, mais en raison de son tempérament solitaire et de ses attitudes évasives. L'on savait, en outre, qu'il avait voté bleu sur les indications de son beau-père. Ce fut donc par pure coïncidence qu'il révéla ses sentiments politiques et par simple curiosité qu'on lui mit dans l'idée d'aller rendre visite au docteur pour se faire soigner une douleur dont il ne souffrait pas. Parvenu dans le taudis comme une toile d'araignée puant le camphre, il se trouva en présence d'une espèce d'iguane toute poussiéreuse dont les poumons sifflaient à chaque respiration. Avant de lui poser aucune question, le docteur le conduisit à la fenêtre et lui examina le blanc de l'œil en lui tirant sur les paupières inférieures. « Ce n'est pas là, » dit Aureliano en respectant les instructions qu'il avait reçues. Il appuya fortement le bout des doigts à l'emplacement de son foie et ajouta « C'est ici que j'ai mal, à tel point que ça m'empêche de dormir. » Alors, le docteur Noguera ferma la fenêtre sous prétexte que le soleil donnait trop fort et lui expliqua en termes simples pourquoi il était du devoir des patriotes d'assassiner les conservateurs. Pendant plusieurs jours, Aureliano porta dans la poche de sa chemise un petit flacon qu'il sortait toutes les deux heures. Il versait trois comprimés dans le creux de sa main, les projetait d'un coup sec dans sa bouche et les y laissait fondre lentement sur sa langue. Don Apollinar Moscoté se moqua de sa confiance dans les vertus de l'homéopathie, mais ceux qui faisaient partie du complot reconnurent en lui l'un des leurs. Presque tous les fils des fondateurs de Macondo étaient impliqués dans l'affaire. Bien qu'aucun ne sût pratiquement en quoi consistait l'action qu'ils étaient censés tramer. Cependant, le jour où le médecin mit Aureliano dans le secret, celui-ci se retira de la conspiration. Bien qu'il fût alors convaincu de l'urgence qu'il y avait à liquider le régime conservateur, ce plan l'horrifiait. Le docteur Noguera était un mystique de l'attentat personnel. Son système se réduisait à coordonner une série d'actions individuelles qui apparaîtraient comme un coup de maître sur le plan national, en liquidant tous les fonctionnaires du régime avec leurs familles respectives, surtout les enfants, pour que fût détruite la mauvaise graine du conservatisme. Don Apollinar Moscoté, son épouse et ses six filles figuraient naturellement sur la liste. « Vous n'êtes ni libéral ni rien d'autre, » lui dit Aureliano sans se départir de son calme. « Vous n'êtes rien de plus qu'un boucher. »« Dans ce cas, » répliqua le docteur sur le même ton impassible, « rends-moi le petit flacon, tu n'en as plus besoin. » Au bout de 6 mois, Aureliano se rendit compte que le docteur avait renoncé à voir en lui un homme d'action, et le considérait comme un être sentimental, sans avenir, au caractère passif et condamné à vivre en solitaire. Les autres essayèrent de ne pas le perdre de vue de peur qu'il ne dénonçât la conspiration. Aureliano les tranquillisa. Il ne dirait pas un mot, mais la nuit où ils iraient assassiner la famille Moscoté, ils le trouveraient défendant leur porte. Il se montra si résolu que l'exécution du plan fut ajournée. C'est à cette époque qu'Ursula lui demanda son avis sur le mariage de Pietro Crespi et d'Amaranta et qu'il lui répondit que ce n'était pas le moment de penser à ce genre de choses. Depuis une semaine, il portait sous sa chemise une antiquité de pistolet. Il surveillait ses amis. Chaque après-midi, il allait prendre le café chez José Arcadio et Rebecca, qui commençaient à s'installer vraiment, et à partir de 7 heures, il faisait sa partie de domino avec son beau-père. À l'heure du déjeuner, il discutait avec Arcadio, qui était déjà un adolescent colossal, et chaque jour le trouvait plus exalté par l'imminence de la guerre. C'est à l'école, où Arcadio enseignait à des élèves plus âgés que lui, mêlés à d'autres qui commençaient à peine à parler, que s'était développée la fièvre libérale. On parlait de fusiller le père Nicanor, de transformer l'église en école, d'instaurer l'amour libre. Aureliano essaya de modérer son impétuosité. Il lui recommanda discrétion et prudence. Sourd à ses raisonnements posés et à son sens des réalités, Arcadio lui reprocha publiquement sa faiblesse de caractère. Aureliano prit patience. Enfin, dans les premiers jours de décembre, Ursula, toute retournée, fit irruption dans l'atelier.
« La guerre a éclaté !»
Effectivement, la guerre avait éclaté depuis 3 mois. La loi martiale régnait dans tout le pays. Le seul à le savoir à l'époque était Don Apollinar Moscoté, mais il se garda même de donner la nouvelle à sa femme, cependant qu'arrivait le peloton de l'armée qui devait occuper le village par surprise. Ils entrèrent sans bruit avant le lever du jour, avec 2 pièces d'artillerie légère tirées par des mules, et établirent leur quartier dans l'école. Le couvre-feu fut fixé à 6 heures de l'après-midi. On procéda à une réquisition encore plus draconienne que la précédente, maison par maison, et cette fois même les outils de travail furent emportés. Ils traînèrent hors de chez lui le docteur Noguera, le ligotèrent à un arbre de la place et, sans autre forme de procès, le passèrent par les armes. Le père Nicanor essaya de faire impression sur les autorités militaires, avec son exhibition miraculeuse de lévitation, mais un soldat le blessa à la tête d'un coup de crosse. L'exaltation libérale fit place à une terreur silencieuse. Aureliano, livide, renfermé sur lui-même, continua ses parties de domino avec son beau-père. Il comprit qu'en dépit de son titre actuel de commandant civil et militaire de la place, Don Apollinar Moscoté n'était à nouveau qu'une potiche. Les décisions étaient prises par un capitaine de l'armée qui, chaque matin, percevait un impôt d'exception pour le maintien de l'ordre public. Sur son ordre, 4 soldats arrachèrent à sa famille une femme qui avait été mordue par un chien enragé et la massacrèrent à coups de crosse en pleine rue. Un dimanche, au bout de 2 semaines d'occupation, Aureliano entra chez Guerinaldo Marquez et, avec sa sobriété coutumière, demanda un bol de café sans sucre. Lorsque tous deux se retrouvèrent seul à seul à la cuisine, Aureliano prit un ton autoritaire qu'on ne lui avait jamais connu. « Rassemble les gars, » dit-il. « Nous partons en guerre. » Guerinaldo Marquez n'en crut pas ses oreilles. « Avec quelles armes » demanda-t-il. « Avec les leurs, » répondit Aureliano. Le mardi, au milieu de la nuit, en une expédition insensée, 21 hommes de moins de 30 ans sous le commandement d'Aureliano Buendia, armés de couteaux de table et de fers affilés, prirent la garnison par surprise, s'approprièrent les armes et fusillèrent dans la cour le capitaine et les 4 soldats qui avaient massacré la femme. Dans la même nuit, tandis qu'on entendait les décharges du peloton d'exécution, Arcadio fut nommé commandant civil et militaire de la place. Ceux des rebelles qui étaient mariés eurent à peine le temps de dire adieu à leur épouse qu'ils abandonnèrent à son propre sort. Ils partirent au point du jour, acclamés par la population, délivrés de la terreur, pour rejoindre les forces du général révolutionnaire Vittorio Medina, qui, d'après les dernières nouvelles, marchait en direction de Manaoré. Avant de partir, Aureliano sortit Don Apollinar Moscoté de l'armoire où il s'était caché. « Bon père, vous allez rester tranquille, lui dit-il. Vous avez ma parole d'honneur que le nouveau commandement garantit votre sécurité personnelle ainsi que celle de votre famille. » Don Apollinar Moscoté eut du mal à reconnaître ce conspirateur aux grandes bottes, le fusil en travers de l'épaule, avec lequel il avait joué au domino jusqu'à 9 heures du soir. « Tu es en train de faire une bêtise, Aurelito !» s'écria-t-il. « Aucune bêtise, » répliqua Aureliano. « Nous sommes en guerre. Et ne me dites plus Aurelito quand je suis déjà le colonel Aureliano Buendia !»